affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Bonjour, bienvenue sur Canal Académie. Cette semaine, nous fêtons les 200 ans de Maxime Ducamp. Cet homme de lettres est connu pour avoir été un grand ami de Flaubert, qui l'accompagna dans son voyage en Orient, mais il eut aussi sa propre création littéraire, bien sûr. Nous allons nous intéresser à l'une de ses œuvres, particulièrement originale, une sorte de biographie collective de ses confrères de l'Académie française. Maxime Ducamp les observe, s'en saisit, les décrit, se documente, puis les aligne les uns après les autres comme une collection d'insectes curieux. Victor Hugo, Octave Feuillet, Ferdinand de Lesseps, chacun a droit à son dossier rédigé d'une plume mordante. Ces textes n'avaient encore jamais été publiés. Ils viennent de paraître aux éditions du Bourg grâce au travail de Thomas Louet, maître de conférences à l'Université de Strasbourg et historien. Ce livre réveille bien des célébrités du XIXe siècle tombées dans les limbes. Il vient aussi bousculer notre conception habituelle de l'histoire littéraire. Bonjour Thomas Louet.
Bonjour.
Alors Maxime Ducamp a été élu à l'Académie française en 1880 et très vite, 2 ans plus tard, il commence à écrire sur ses confrères. Il va continuer cette activité quasiment jusqu'à sa mort. Quel est son projet? Quelle est sa posture? C'est pas vraiment un journal intime? Ce sont un peu des mémoires? Enfin, quelle est son idée derrière ce travail?
Alors, il faut peut-être préciser que Maxime Ducamp est élu effectivement à l'Académie française en février 1880, dans des circonstances, on va dire, un petit peu mouvementées. Il y a un arrière-fond politique qui joue en classant le futur académicien, disons, dans un camp conservateur, anticommunard, hein, lié donc à la publication des Convulsions de Paris entre 1878 et 1881. L'élection de Ducamp, elle est importante dans sa vie parce que c'est le moment où il va commencer à se retourner sur son passé. L'élection à l'Académie française, c'est une consécration littéraire, quelque part. Enfin, littéraire, c'est un mot qu'on pourrait discuter. Mais c'est une forme de consécration, en tout cas, qui est très importante, d'autant qu'elle est doublée par la mort de Flaubert, qui intervient 2 mois plus tard. Et donc, finalement, Ducamp se trouve un petit peu dans cette position d'être arrivé au bout d'un trajet, d'une trajectoire consacrée par cette élection et se retourne sur son passé. Il écrit d'abord ses souvenirs littéraires qui seront publiés dans la Revue des Deux Mondes en 1881-82 et cette même année, il se lance donc dans la rédaction de cette autre biographie collective quelque part qui est donc ses Académiciens de mon temps où il va portraiturer, croquer de sa plume, souvent acerbe, il faut bien le dire, un certain nombre de ses confrères.
Alors, dans tous ces portraits, il y a son autobiographie. Elle se trouve au début de l'ouvrage, même si elle a pu être rédigée plus tard. Et lui-même se présente, il le dit avec sincérité. Comment se met-il en scène dans cette grande galerie de portraits?
Alors, il ne s'y met pas en scène, quelque part. Il garde une espèce de position étrangère à cet univers académique. Il garde cet œil de l'observateur, et j'allais dire même cet œil de l'historien, puisqu'il adjoint d'ailleurs à ses portraits de la documentation. Hein. N'oublions pas que Maxime Ducamp s'est fait une réputation d'historien positiviste, quelque part, au sens où il travaillait sur des faits, des documents, des archives, etc. C'est son grand livre sur Paris qui l'a, de ce point de vue-là, un petit peu consacré aussi comme un auteur et comme un historien. Et Ducamp... quand il arrive à l'Académie française, donc, est un petit peu, sur une position de transition et lié aussi à un vieillissement, pas seulement social, mais biologique. Et d'ailleurs, dans les notices qu'il propose dans ce document, beaucoup de notations, beaucoup d'observations sont liées au trait physique, à la biologie proprement dit. Donc, on est véritablement là dans ces thématiques nature-culture qui sont assez intéressantes parce que cette institution éminemment sociale qu'est l'Académie française possède aussi un rythme biologique qui reste fondamental dans sa reproduction.
La mort, par exemple, est très présente dans ces rituels. Une élection n'a lieu que si un académicien meurt.
Bien sûr. Et c'est très, très notable dans ce document. L'élection rythme la vie académique. J'allais dire, c'est encore un petit peu le cas aujourd'hui. Hein. Donc après, ça pose la question de qu'est-ce que c'est que cette institution, à quoi elle sert et comment elle se positionne, évidemment, dans de multiples espaces sociaux, littéraires, j'allais dire aussi idéologiques, etc., etc. On pourrait multiplier les contextes.
Alors avant de revenir à la vie de cette compagnie, nous allons peut-être parler de la méthode de travail de Maxime Ducamp, parce que pour chaque académicien, pour chacun de ses confrères, il propose d'abord un portrait rédigé de sa main, puis il y ajoute comme une sorte de collage des extraits de correspondance et puis des coupures de presse.
Oui, c'est ce travail documentaire qui est assez caractéristique de la vie d'homme de lettres de Ducamp, qui a toujours documenté ses voyages, qui a toujours documenté ses récits, qui a toujours ses récits même de fiction. Ce qu'on pourrait appeler l'œuvre proprement littéraire de Ducamp est très autofictionnelle finalement. Donc le matériau, c'est lui-même quelque part. Et ce travail que Ducamp fait dans Les Académiciens de mon temps, c'est le même en fait qu'il a fait pour Les Souvenirs littéraires qu'il a publié juste avant. Quand vous regardez le travail préparatoire des souvenirs qui ont été de multiples fois réédités, hein, qui sont une œuvre importante, un document et un témoignage important dans l'histoire littéraire, Ducamp procède exactement de la même manière. Il fait des dossiers. Il fait un dossier pour chaque romancier, chaque auteur qu'il va évoquer chapitre après chapitre dans ces souvenirs qui seront publiés donc dans la Revue des Deux Mondes je ne sais plus, je crois qu'il y a une quinzaine de livraisons, c'est un document quand même très conséquent. Et je ne sais pas pourquoi exactement, mais il a procédé exactement de la même manière avec ses académiciens. Je pense que la finalité n'était pas la même. Je pense que Les Académiciens de mon temps ne sont pas un document que Ducamp aurait voulu voir publié, certainement pas de son vivant. Et aujourd'hui, peut-être qu'on peut le voir un peu comme un clin d'œil à la postérité. C'est une écriture d'outre-tombe aussi, hein, l'écriture de Ducamp, de ce point de vue-là. Elle se rapproche de celle de Chateaubriand, de cette grande tradition des mémoires, de ce qu'on peut appeler une écriture d'outre-tombe.
Il ne s'adresse pas vraiment à un lecteur.
J'ai l'impression qu'il s'adressait à moi, qu'il attendait que je vienne le chercher quelque part, qu'il avait envie qu'on découvre et qu'on lise ce texte, mais évidemment, beaucoup plus tard, quoi. Et dans la correspondance qu'il a avec les bibliothécaires de l'Institut, souvent il termine ses lettres d'outre-tombe, je vous adresse, etc., etc. Parce qu'il écrit en fait pour des gens qui arriveront après sa mort. Je crois que c'est une stratégie mémorielle aussi chez Ducamp. C'est une volonté de se survivre dans son œuvre qui n'est pas reconnue d'un point de vue littéraire, mais qui a d'autres qualités, notamment le fait documentaire.
C'est donc une œuvre pour nous, aujourd'hui, qui peut intéresser notamment les chercheurs, soit en histoire, soit en lettres.
Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut le prendre comme ça. C'est un document qui est à la fois très informatif, qui nous donne une vision de l'académie qu'on n'a pas nécessairement, même si déjà à l'époque, les contemporains de Ducamp, je pense à Barbet de Revilly ou à Alphonse Daudet, d'autres ont croqué aussi des portraits de l'académie plus ou moins flatteurs, faut dire, mais ils étaient dans des positions un peu décalées dans le champ littéraire, hein, évidemment. Mais il y a, cette volonté donc de rendre une vie, une sociabilité, une forme de sociabilité de salon, hein, quelque part, qui ne disparaît pas encore, qui est assez vivante. Hein, c'est un peu le monde de Proust, hein, de ce point de vue-là, mais qui disparaîtra dans les années 1930, effectivement. Hein. Et Ducamp a classé comme ça un certain nombre de manuscrits qu'il voulait voir édité ou ne pas voir édité, mais qu'il voulait conserver, etc., etc. Il y a tout un jeu, si vous voulez, un peu de cache-cache avec le futur, qui est assez perceptible dans les catalogues aujourd'hui, que ce soit celui de la Bibliothèque nationale ou de la Bibliothèque de l'Institut, où on retrouve ces petits cailloux semés par Ducamp qui permettent aussi de retracer sa propre trajectoire.
Alors, à quoi ressemble l'Académie française en 1880 quand Maxime Ducamp y entre, qui s'y trouve, quels sont un peu les camps en présence, quelle est l'ambiance?
Ben écoutez, je n'y étais pas, je ne pourrais pas trop vous dire, mais je crois que, je vous le disais en commençant, l'élection de Ducamp était une élection très politique. Donc il y a à l'Académie, bon, d'une manière générale, hein, si on reprend le schéma de Bourdieu, le pôle académique représente un espace très particulier dans le champ littéraire. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le monde des lettres au XIXe siècle, ce n'est pas la littérature. Un homme de lettres n'est pas seulement un romancier, c'est beaucoup plus que ça, quoi. Et l'Académie est la consécration de ce monde des lettres, donc, qui intègre à la fois une dimension littéraire, bien sûr, mais beaucoup plus largement que ça, une dimension intellectuelle, une dimension esthétique, une dimension, j'allais dire, enfin bref, on pourrait multiplier. Mais l'Académie dépasse très largement le cadre de la littérature. Ce qui fait qu'on retrouve dans ses portraits des gens qui, d'un point de vue littéraire, sont assez insignifiants, mais qui ont occupé une place, qui ont occupé une fonction, qui ont laissé des écrits autres que littéraires à proprement parler, qui ont été jugés notables d'être retenus, et donc des personnalités qui entrent comme ça à l'Académie pour des raisons en fait extrêmement variées. Hein, il est clair que l'œuvre littéraire du duc de Breuil, par exemple, est relativement mince, et on la compare à celle de Flaubert dont nous parlions.
Qui, lui, justement, n'est pas à l'Académie française, parce que les romanciers, beaucoup de grands noms d'écrivains que nous associons à cette époque de la fin du 19e siècle, eux n'y sont pas. On peut penser à Baudelaire qui n'y est pas, à Flaubert qui n'y est pas, à Théophile Gautier non plus.
Bien sûr. Bien sûr, parce qu'encore une fois, ce n'est pas une instance de consécration littéraire à proprement parler. Hein, ça, c'est une contre-académie qui la créera, c'est l'Académie Goncourt qui apparaîtra plus tard, à la fin, début du 20e siècle, fin du 19e. Et où là, on est dans l'idée de consécration littéraire, proprement parlée. L'Académie française, elle va consacrer plutôt une sorte d'esprit français. Ça renvoie un petit peu à ces travaux de cette sociologue canadienne qui travaillait sur la France, nation littéraire, etc. Voilà. Il y a effectivement cet aspect qui me semble assez important. Donc, effectivement, on y retrouve des historiens, on y retrouve des auteurs de théâtre, quelques romanciers, quelques poètes. Mais l'homme de lettres au XIXe siècle, c'est un polygraphe. C'est quelqu'un qui a des registres d'écriture extrêmement variés. Et une grande partie de la littérature se fait d'ailleurs en dehors de la littérature proprement parlée. Elle se fait dans la presse, elle se fait dans d'autres types d'écriture.
Alors, Maxime Ducamp se plaît à dresser ses portraits qui sont assez courts. En général, ce sont deux pages, hein, de portraits assez incisifs. Et ces grands hommes que nous connaissons sont dépeints sous un jour très, très familier, assez inattendu. Victor Hugo est présenté comme avare, Louis Pasteur grognon, Octave Feuillène nerveux, Pierre Loti lui semble être un poseur, Ernest Lavis un mondain, le duc d'Aumale un bourgeois. Et Hippolyte Taine, un cuistre qui s'arrange les ongles avec son canif pendant les séances. C'est très drôle, en fait, quand on lit ces textes.
Ça humanise beaucoup les immortels, hein, c'est ce que je disais. Et effectivement, on a cette sensation de proximité qui est assez caractéristique des salons littéraires, hein, effectivement. Alors, dans le texte, d'ailleurs, Ducamp s'agace parfois des salons littéraires, notamment celui de Madame Auberlon de Nerville, qui est un des grands salons parisiens de l'époque, quoi. Mais parce que il conserve en même temps cette position d'extraïnité avec l'Académie, hein, qui lui permet de se poser comme un observateur, hein, c'est-à-dire à distance de son objet. Or, on le voit, il est totalement intégré dans son objet, non pas seulement parce qu'on est dans une sociologie de face à face, d'interconnaissance, etc., où c'est quasiment une sociologie rurale, hein, quelque part. Ça marche beaucoup avec les rumeurs, avec les bruits de couloirs, avec les on-dit, elle court, la rumeur. Hein. Et de ce point de vue-là, on est dans une forme de sociologie assez primaire, hein, et en même temps extrêmement civilisée. Hein, c'est ça aussi tout le paradoxe, quelque part. L'Académie française est à la fois un village et un salon.
Il dit justement que c'est un lieu où règne la courtoisie, oui, mais pas la cordialité.
Tout à fait. Encore que chez Ducamp, quand on prend le manuscrit dans son ensemble, on peut établir quand même une sorte de géographie des affinités électives. Hein. On sent, et notamment dans les correspondances, plus que dans les portraits, on sent dans les correspondances qu'il y a des auteurs, qu'il y a pardon, des académiciens, des individus avec lesquels Ducamp se sent quand même très 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 en phase. Parfois des personnages assez atypiques. Hein. Je pense à Victor de Laprade, par exemple. La correspondance de Ducamp et de Laprade, les lettres de Laprade sont assez hallucinantes.
Alors, pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez rappeler qui est ce personnage ?
Oh, Victor de Laprade est totalement oublié aujourd'hui. C'était un intellectuel lyonnais, professeur à l'Université de Lyon, qui a subi les foudres de coup d'État en 1851, si je ne me trompe pas, et qui va vivre donc à la fois dans cette éthique aristocratique et en même temps, j'allais dire, dans une certaine pauvreté, dans un certain éloignement. Voilà, il a fait quelques poèmes qui ont fait sa gloire dans les années 1840, et puis ensuite, il est tombé dans un certain oubli. Et lorsque Maxime Ducamp est élu en 1880, Laprade joue un certain rôle, puisqu'il vient directement de Lyon, alors qu'il est très âgé, qu'il est dans un état physique justement extrêmement difficile pour supporter un voyage, il vient quand même pour poser sa voix, enfin pour porter sa voix sur le nom de Ducamp. Hein, parce qu'encore une fois, l'élection est quand même très, très conflictuelle. Hein. Ducamp n'est élu qu'au quatrième tour et encore une fois avec des oppositions très fortes dans ce qu'on pourrait appeler la gauche académique.
Il apparaît même presque déçu que son élection n'ait pas provoqué plus de tourments, y compris à l'extérieur. Il s'attendait presque à être agressé à la sortie de l'élection.
Bah peut-être qu'il aurait bien aimé, finalement.
Oui, c'est, on a l'impression quand on le lit.
Mais ce n'est pas étonnant. Il faut bien voir aussi que la place de l'académie à l'époque dans la vie intellectuelle était peut-être un peu plus importante qu'aujourd'hui. Je veux dire que quand vous regardez la grande presse littéraire et politique, le Journal des débats, le Figaro notamment, etc., tous ces journaux-là rendent très largement compte de l'activité académique, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Hein. Il est clair qu'une élection académique fait la première page à l'époque. Alors c'est un public qu'on pourrait appeler lettré de masse hein, qui lit ce genre de presse, mais ça s'adresse quand même à un public très large finalement. Hein. Qui n'est pas la grande presse populaire. C'est dire quand même qu'effectivement, ce type d'événement peut susciter certains émois, etc., etc. Et je pense que si Alphonse Daudet prend la peine de rédiger son livre sur l'Académie française, où il fait don aussi de grande qualité d'observateur, hein, même s'il brocarde beaucoup, le sujet est suffisamment important pour donner matière à littérature.
Est-ce qu'il y a une certaine tendresse qui se manifeste à travers ces lignes, souvent très ironiques, pour ses confrères ?
De tendresse, non, je ne pense pas. Honnêtement, non. Je pense que Ducamp n'est pas tendre avec ses confrères. Il est même parfois dur. Mais il y a ce sentiment d'être, d'en être, très certainement. L'idée que votre voix soit l'égale de celle de Victor Hugo... c'est pas totalement anodin quand même. Donc Ducamp est à la fois extrêmement critique avec les académiciens, mais très peu avec l'académie.
Il y a cet esprit de corps.
Tout à fait. Ça, Marc Fumaroli l'avait bien décrit dans son grand article, enfin très long article sur l'académie dans ces trois institutions. Cet esprit de corps, effectivement, c'est quelque chose, je crois, de très important, quoi. Et effectivement, les critiques que Ducamp peut faire sur les académiciens sont de nature très différente, par exemple, des 40 médaillons de Barbey d'Aurevilly. Hein, on n'est pas du tout dans le même registre, là, même si on est dans le même style littéraire, quelque part.
Ouais. Effectivement, Ducamp n'est pas le premier à brosser des portraits d'académiciens un peu égratigner les dorures, d'une certaine façon.
Bien sûr. Mais ça, c'est parfaitement logique. Moi, j'ai travaillé très longtemps sur la Revue des Deux Mondes. Le même Barbey d'Aurevilly avait vis-à-vis de François Bulloz, le directeur de la revue, qui était très, très proche de l'Académie. Hein. On l'a même qualifié d'antichambre de l'Académie française. Barbey d'Aurevilly tient à l'encontre de François Bulloz, qui ne voulait pas le publier, le même type de discours. Il fait un article très célèbre dans le Figaro en 1863 qui s'appelle « Monsieur Bulloz ». Et qui commence, si mes souvenirs sont bons, je ne l'ai pas relu depuis des dizaines d'années, mais il a réussi, il a duré. Ou il a duré, il a réussi. Donc voilà, l'académie, la revue des deux mondes se pose comme une forme d'académie de papier, si vous voulez. Et le discours anti-revue des deux mondes et le discours anti-revue académique sont exactement de même nature, proviennent des mêmes milieux. Et il y a quelque chose d'extrêmement logique dans ces oppositions, quoi. Voilà. Bon, là, il faudrait renvoyer aux travaux de Bourdieu, peut-être, sur la naissance du champ littéraire, ou ses travaux à partir de Flaubert. Mais sans aller jusque-là, il est clair qu'à la fin du XIXe siècle, l'Académie française représente suffisamment d'intérêt pour qu'on en parle.
Alors, cette société, comment va-t-elle évoluer ? Maxime Ducamp y est présent une quinzaine d'années. Est-ce qu'il assiste quelque part à la fin d'un monde ?
Bonne question. Je crois que c'est un monde qui va plutôt disparaître une quarantaine d'années plus tard, qui va passer la guerre. Qui va passer la guerre et qui disparaîtra avec les grandes revues aussi dans les années 1930. À ce moment-là, les grandes revues littéraires sont dépassées par d'autres formes de presse littéraire, les magazines, etc. Il y a beaucoup de modifications qui s'opèrent dans les années 30. Quand on regarde l'Académie des années 1930, oui, elle a changé. Du moins, si on se place du point de vue de Ducamp, le portrait que Ducamp brosse de Ferdinand Brunetière, donc, qui était le directeur de la Revue des Deux Mondes, justement, et le portrait qu'en brosse Ducamp, qui est d'une méchanceté pas toujours même très objectif, même s'il coince Brunetière dans des recoins assez bien trouvés. L'élection de Brunetière marque peut-être un tournant, parce que finalement, vous regardez l'Académie des années 30, ce sont les élèves de Brunetière qui vont la peupler. Le secrétaire perpétuel s'appelle René Doumic, les poids lourds, entre guillemets, de l'Académie s'appellent Georges Goyot, etc., etc. Ce sont des élèves de Brunetière, complètement. Ils ont été formés soit à l'école normale supérieure, soit surtout à la rédaction de la Revue des Deux Mondes, dans le moule Brunetière. Et ces élèves-là qu'on retrouve en 1930 à l'Académie. Et pour faire le lien entre Ducamp et les années 30, il y a un personnage emblématique, c'est Paul Bourget. Paul Bourget, il se trouve que j'avais travaillé dessus il y a très longtemps. J'avais pas mal travaillé sur Le Disciple, notamment, qui est un roman qui a suscité lui aussi pas mal de remous à sa sortie en 1889. Bourget est caractéristique de cette nationalisation de la littérature, de ce nationalisme littéraire. Et en quelque sorte, la thèse que je développais dans ce petit article que j'avais fait il y a longtemps, c'était de montrer que les débats intellectuels suscités par le disciple de Paul Bourget étaient en quelque sorte une répétition générale de l'affaire Dreyfus qui se déroulerait 10 ans plus tard. Et effectivement, les cadres intellectuels ont beaucoup bougé. Il est clair que les années 90 vont, 80-90, vont largement modifier aussi les structures du champ intellectuel.
Alors Thomas Louet, pour finir, aujourd'hui dans les milieux universitaires, on s'intéresse assez peu à l'histoire académique, à la littérature dite académicienne. Et vous pensez qu'au contraire, cela vaut la peine d'y passer du temps, d'y consacrer des recherches, pourquoi ?
Parce que je suis historien, justement, et que les littéraires, vous regardez les études littéraires, ils sont un petit peu, j'allais dire, coincés dans leur propre monde, qui est borné à un bout du siècle par Balzac et à l'autre par Zola, enfin bref, etc., Flaubert au milieu. Il y a assez peu de littéraires qui s'intéressent effectivement à ce qui a été dominant un temps et dominé aujourd'hui, quoi. Quand j'ai fait ma thèse sur la Revue des Deux Mondes, j'ai eu l'impression que je travaillais sur un objet qui n'avait quasiment plus sa place quelque part. Parce que bon, il était plutôt de bon ton de travailler sur la NRF. Voilà. Mais ça, c'est le travail de l'histoire après. Les immortels que consacre l'Académie française sont les immortels du jour, en quelque sorte. Ils sont les immortels d'un rapport de force qui s'est noué à un moment donné, le jour d'une élection. Mais le truc, c'est qu'il y a une sédimentation qui s'opère ensuite, que ces gens-là restent quelque part, et que le Ducamp, qui a été élu en 1880, continue à voter en 1893, mais en fonction de préoccupations qui ne sont plus forcément les mêmes, dans un jeu intellectuel qui a légèrement évolué, on va dire, depuis les années 1880, etc., etc. Donc, moi, je prends l'Académie comme une institution intellectuelle symbolique, signifiante, intéressante et importante pour le 19e siècle. Et je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de l'Académie française pour comprendre, d'un point de vue intellectuel en tout cas, ce qu'a été le 19e siècle, même si c'est devenu le pôle répulsif, on va dire, et non plus forcément le pôle attractif. Aujourd'hui, le pôle dominant, le pôle panthéonisé, on va dire. Mais c'est un premier panthéon qui donne l'état d'une société à un moment. Et moi, comme historien, c'est ce qui m'intéresse.
Eh bien, pour se promener dans ce panthéon, nous pouvons donc lire l'ouvrage de Maxime Ducamp que vous avez édité, « Les académiciens de mon temps », c'est aux éditions Dubourg. Un grand merci, Thomas Louet.
Je vous remercie.
Et à bientôt.
Merci, au revoir. Thank you.